Troisième partie. Je me raisonne tous les jours contre cette attitude puérile et indigne de l'homme qui fait que nous essayons d'émouvoir par nos malheurs la compassion et la pitié de nos amis. Nous exagérons nos ennuis pour leur tirer des larmes, et la fermeté que nous louons en chacun à l'égard de sa mauvaise fortune, nous la blâmons et en faisant reproche à ceux qui nous entourent quand il s'agit de la nôtre. Il ne nous suffit pas qu'ils soient touchés par nos malheurs s'ils n'en sont pas affligés. Il faut étendre la joie, mais restreindre autant qu'on peut la tristesse. Et si quelqu'un se fait plaindre sans raison, on ne le plaindra plus quand il aura vraiment une bonne raison pour cela. Se plaindre toujours, c'est se vouer à n'être jamais plaint. Car à faire si souvent celui qui mérite la pitié, on n'apitoie plus personne. Qui fait le mort étant vivant, risque d'être tenu pour bien vivant quand il sera mourant. J'en ai vu qui prenaient la mouche parce qu'on leur trouvait le visage frais et le pouls régulier, s'empêcher de rire pour ne pas trahir leur guérison, et haïr la santé parce qu'elle ne suscite pas la compassion. Et en plus, ce n'étaient pas des femmes. Je montre mes maladies, tout au plus pour ce qu'elles sont, et éviter les pronostics pessimistes et les exclamations affectées. À défaut d'allégresse, le calme est du moins la contenance qui convient auprès d'un malade intelligent. Ce n'est pas parce qu'il se voit dans un état contraire à la santé qu'il entre en conflit avec elle. Il se plaît à la contempler chez les autres, forte et entière, et en jouir au moins en leur compagnie. Bien qu'il se sente glissé vers le bas, il ne rejette pas complètement les pensées de la vie, non plus qu'il ne fuit les entretiens ordinaires. Je veux étudier la maladie quand je suis en bonne santé. Quand elle est là, sa réalité suffit, sans avoir besoin de mon imagination. Nous nous préparons à l'avance au voyage que nous allons faire. Nous en avons décidé ainsi. L'heure à laquelle il faut monter à cheval, nous la laissons à ceux qui sont autour de nous, et nous la retardons pour leur faire plaisir. Je trouve un avantage inespéré à faire connaître ma façon de vivre. Le fait qu'elle me serve en quelque sorte de règle. Il m'arrive de me demander si je dois révéler l'histoire de ma vie. Cette déclaration publique m'oblige à tenir ma route et à ne pas démentir l'usage que je donne de mes comportements, en général moins défigurés et contredits par la malignité et le côté malsain du jugement que l'on porte aujourd'hui. Si l'uniformité et la simplicité de mes mœurs font que l'interprétation de mon portrait est aisée, la méthode, qui est assez neuve et peu employée, par contre, donne trop facilement prise à la médisance. C'est donc vrai que je fournis, me semble-t-il, à celui qui veut ouvertement me dénigrer, des indications sur l'endroit où me mordre dans mes imperfections avouées et connues, et de quoi s'y rassasier, sans risquer de brasser du vent. Si, du fait que je m'emploie moi-même à le découvrir et à en dresser l'accusation, il lui semble que je lui lime un peu les dents, il est normal qu'il en prenne à son aise en les amplifiant, en les étendant. L'offense a des droits qui vont au-delà de la justice, et qu'il fasse des arbres avec les racines des défauts que je lui indique, qu'il y emploie non seulement ceux qui sont à demeure chez moi, mais aussi ceux qui ne font encore que me menacer. J'ai des défauts honteux, par leur genre et leur nombre, mais qu'ils m'attraquent donc par là. Je reprends volontiers à mon compte l'exemple du philosophe Dion. Antigonos voulait le vexer en faisant état de ses origines, mais il l'interrompit tout net. « Je suis, dit-il, fils d'esclave, un boucher marqué au fer et d'une putain que mon père avait épousée puisqu'il était de basse condition. Tous deux ont été punis pour quelques méfaits. Un orateur m'acheta quand j'étais enfant, me trouvant beau et agréable. Il m'a laissé tous ses biens en mourant. Les ayant transportés dans cette ville d'Athènes, je me suis mis à donner à la philosophie. que les historiens ne se donnent pas la peine de se renseigner sur moi. Je leur dirai moi-même ce qu'il en est. La confession, digne et libre, affaiblit le reproche et désarme l'injure. Toujours est-il que, tout compte fait, il me semble qu'on me loue chaque fois que l'on me dénigre plus que de raison. De la même façon que, dès l'enfance, il me semble qu'on m'a placé plutôt au-dessus de ce que je méritais qu'au-dessous. J'aimerais mieux vivre dans un pays où ces questions de préséance seraient ou bien réglées ou méprisées. Entre les hommes, dès que la contestation pour avoir qui marchera ou s'assiera le premier dépasse trois répliques, c'est une incivilité. Je ne crains pas de céder ou procéder de façon non réglementaire pour fuir une si déplaisante dispute, et jamais personne n'a souhaité me ravir la préséance que je ne la lui ai laissée. Outre le produit que je tire d'écrire à propos de moi, j'en ai espéré un autre. S'il arrivait avant ma mort que mon caractère plaise et s'accorde à celui d'un homme estimable, celui-là chercherait peut-être à me rencontrer. Je lui aurais fait gagner beaucoup de temps, car il aurait appris en 3 jours dans mon livre ce qu'il n'aurait acquis qu'au bout de plusieurs années de connaissance et de familiarité, plus exactement et plus sûrement encore. Voilà une amusante extravagance. Bien des choses que je ne voudrais dire à personne en particulier, je les dis en public. Et pour connaître mes pensées les plus secrètes, je renvoie mes amis les plus intimes au libraire. Si, sûr de telles preuves, j'avais connu quelqu'un qui m'eût convenu, je serais allé le trouver même fort loin, car la douceur d'une compagnie agréable et assortie à mon caractère ne peut s'acheter assez cher, à mon avis. C'est quelque chose qu'un ami. Et combien est vraie cette maxime antique selon laquelle en avoir un est plus nécessaire et plus doux que de posséder les éléments que sont l'eau et le feu. Mais j'en reviens à mon sujet. Il n'y a donc pas grand inconvénient à mourir loin de chez soi et des siens. D'ailleurs, nous estimons devoir nous retirer pour des actions naturelles moins pénibles et moins affreuses que celles-ci. Et ceux qui en arrivent au point de traîner languissant pendant une partie de leur vie ne devraient peut-être pas faire supporter leur état à toute une famille. C'est pour cela que les Indiens d'une certaine contrée estimaient normal de tuer celui qui était tombé dans un tel état. Et dans une autre région, ils l'abandonnaient seul, à lui de s'en sortir comme il pouvait. D'ailleurs, à qui ces mourants ne seront-ils pas à force ennuyeux et insupportables? Les devoirs ordinaires ne vont pas jusque-là. Dans cet état, vous forcez à la longue vos meilleurs amis à devenir cruels, et vous endurcissez femmes et enfants au point qu'ils ne ressentent plus vos misères et ne vous en plaignent plus. Quand je me plains de ma gravelle, personne n'y prête plus attention. Et quand nous tirerions quelque plaisir de la conversation avec ceux qui nous entourent, ce qui n'est pas toujours le cas du fait de la différence des situations, qui est toujours une source de mépris ou d'envie, n'est-ce pas abusé que de l'imposer aussi longtemps? Plus je les verrai se forcer de mon cœur pour moi, et plus je les plaindrai pour la peine qu'ils prennent. Nous pouvons bien nous appuyer, mais pas nous coucher si lourdement sur eux, et nous soutenir au point de causer leur chute, comme celui qui faisait égorger les petits-enfants pour que le sang lui serve à guérir de sa maladie, ou cet autre encore à qui on fournissait de jeunes tendrons pour réchauffer ses vieux membres la nuit et mêler la douceur de leur haleine à la sienne, aigre et déplaisante. La décrépitude est un état solitaire. Je suis sociable jusqu'à l'excès. Et c'est pourquoi il me semble raisonnable que je dérobe désormais à la vue du monde l'importunité de mon état et le couvre pour moi seul, que je me resserre et me réfugie dans ma coquille comme les tortues, que j'apprenne à voir les hommes sans m'y attacher. Ce serait abusif dans un passage aussi périlleux. Il est temps de tourner le dos à leur compagnie. On me dit, Mais dans vos voyages, vous serez contraint de vous arrêter dans des endroits misérables où vous manquerez de tout. La plupart des choses qui me sont nécessaires, je les emporte avec moi. Et puis nous saurons éviter les hasards s'ils se mettent à fondre sur nous. Je n'ai besoin de rien d'extraordinaire quand je suis malade. Ce que la nature ne peut faire sur moi, je ne veux pas qu'une pilule le fasse. Au début de mes fièvres et des maladies qui me terrassent, quand je suis encore en bon état et proche de la santé, je me réconcilie avec Dieu par les derniers offices chrétiens, et je m'en trouve plus libre, déchargé, comme si je devais venir à bout plus facilement de la maladie. J'ai encore moins besoin de notaires et de conseils juridiques. J'ai encore moins besoin que de médecins. Qu'on ne s'attende pas à ce que je mette en ordre mes affaires quand je suis malade, alors que j'ai su le faire pendant que j'étais en bonne santé. Ce que j'ai à faire pour me préparer à la mort est toujours fait, et je n'oserais le retarder d'un seul jour. Et si rien n'est fait, c'est que le doute aura retardé ma décision. Car parfois il est bon de ne rien décider. Ou bien c'est parce que je n'aurais vraiment rien voulu faire. J'écris ce livre pour peu de gens et pour peu d'années. S'il s'était agi de quelque chose destiné à durer, il eût fallu employer un langage plus ferme. Puisque le nôtre a subi jusqu'ici des variations continuelles, qui peut espérer que, sous sa forme présente, il soit encore en usage dans 50 ans d'ici? Il nous glisse chaque jour entre les doigts, et depuis que je suis en vie, c'est la moitié qui en a changé. Nous disons qu'il est maintenant parfait, mais chaque siècle en dit autant du sien. Je n'ai pas la prétention de le considérer ainsi, sachant qu'il changera et ne se déformera comme on le voit déjà faire. Il revient aux bons et utiles écrits de le fixer, et son crédit suivra le destin de notre état. C'est la raison pour laquelle je ne crains pas d'insérer ici plusieurs questions d'ordre privé, dont l'utilité se limite aux hommes d'aujourd'hui, et qui concernent plus particulièrement les plus savants d'entre eux, qui y trouveront quelque chose de plus que ceux dont l'intelligence est ordinaire. Je ne veux pas, en fin de compte, que l'on aille débattant, comme je vais faire quand on remue le souvenir de trépassés en disant: il pensait, il vivait ainsi, il voulait ceci. S'il avait parlé au moment de mourir, il eût dit ceci, il eût dit cela. Je le connaissais mieux que tout autre. Autant que la bienséance me le permet, je fais ici sentir mes penchants, et ce qui me touche, mais je le fais plus librement et plus volontiers de bouche à oreille à qui désire en être informé. Si bien que dans ces mémoires, si on y regarde de près, on trouvera que j'ai dit ou tout indiqué, et que je puis exprimer, je le monte du doigt. Ces minces traits suffiront à ton esprit pénétrant. Par eux, tu pourras toi-même trouver le reste. Lucrèce. Je ne laisse rien à désirer ni à deviner de moi. Si on doit en parler, je veux que ce soit de façon exacte et conforme à la vérité. Me reviendrai volontiers de l'autre monde pour démentir celui qui me présenterait autrement que ce que j'étais, fût-ce pour m'honorer. Je vois d'ailleurs qu'on parle des vivants eux-mêmes différemment de ce qu'ils sont. Et si je n'avais maintenant à toute force l'image d'un ami que j'ai perdu, on l'eût dispersé en 1000 visages contraires. Pour en terminer avec mes faiblesses, j'avoue qu'en voyageant, il est rare que j'arrive à un endroit où loger sans qu'il ne passe par la tête l'idée que je pourrais y tomber malade et que je me demande si je pourrais y mourir à mon aise. Je tiens à être logé dans un endroit qui me convienne, sans bruit, ni triste, ni enfumé, où l'on respire bien. Je cherche à amadouer la mort par ces détails frivoles, ou pour mieux dire, à me décharger de tout autre inconvénient, afin que je n'aie qu'elle à attendre, elle qui me sera suffisamment pénible pour ne pas avoir besoin d'autre chose qui me pèse. Je veux qu'elle ait sa part aux aises et agréments de ma vie. Elle en est une grande partie et importante, dont j'espère maintenant qu'elle ne démentira pas le passé. La mort revêt diverses formes, les unes plus aisées que les autres, et elle prend des aspects différents selon l'état d'esprit de chacun. Parmi les morts naturelles, celle qui me vient d'un affaiblissement, d'un appesantissement naturel me semble molle et douce. Parmi les violentes, j'ai plus de mal à supporter l'idée de tomber dans un précipice que d'être enseveli sous un effondrement, par un coup d'épée tranchant que d'une balle d'arquebuse. Et je préférerais boire le breuvage de Socrate plutôt que de me frapper de mon épée comme Caton d'Utique. Et bien que ce soit au fond la même chose, je ressens en imagination autant de différence entre le fait de me jeter dans une fournaise ardente ou dans le cours d'une rivière tranquille qu'il y en a entre la mort et la vie, tant notre crainte donne plus d'importance aux moyens qu'à l'effet. Cela ne prend qu'un instant, mais il est d'un tel poids que je donnerais volontiers plusieurs jours de ma vie pour le passer à ma façon, puisque l'imagination de chacun trouve du plus et du moins dans l'amertume de la mort, chacun ayant le choix entre plusieurs façons de mourir, essayons de chercher un peu plus loin pour voir s'il n'en s'en trouverait pas une forme exempte de tout déplaisir. Et ne pourrait-on pas aller jusqu'à la rendre voluptueuse, comme ce fut le cas pour Antoine et Cléopâtre qui se suicidèrent ensemble? Je laisse de côté les actes suscités par la philosophie et la religion, terribles et exemplaires. Mais parmi les gens simples, il s'en est trouvé, comme Pétronius ou Tigillinus à Rome, qui, contraints de se donner la mort, l'ont comme endormi par la douceur de leurs préparatifs. Ils l'ont fait couler et glisser au beau milieu de la mollesse de leur passe-temps ordinaire, parmi les filles et les bons compagnons. Pas de propos de consolation, aucune mention de testament, aucune ambitieuse affectation de fermeté, pas de réflexion sur leurs conditions futures, mais des jeux, des festins, des plaisanteries, des bavardages ordinaires, de la musique et des poèmes d'amour. Ne pourrions-nous pas imiter cette façon de faire avec une attitude plus honorable? Puisqu'il y a des morts qui sont bonnes pour les fous et d'autres bonnes pour les sages, trouvons-en qui soient bonnes à ceux qui sont entre les deux. Mon imagination m'en présente une dans le genre facile, et puisqu'il faut mourir désirable. Les tyrans romains considéraient qu'ils accordaient la vie aux criminels à qui ils accordaient le choix de sa mort. Mais Théophraste, philosophe si fin, si modeste et si sage, n'a-t-il pas été forcé par la raison de dire ce vers mis en latin par Cicéron? C'est le hasard, non la sagesse, qui régit notre vie. Le destin a favorisé le déroulement de mon existence au point que maintenant elle n'est plus nécessaire à personne et qu'elle n'ennuie personne. C'est une situation que j'aurais acceptée à n'importe quelle période de ma vie, mais en ce moment, quand il s'agit de ranger mes petites affaires et de plier bagages, je suis encore plus satisfait de ne leur causer ni déplaisir, ni plaisir en mourant. Le destin a fait, par une habile compensation, que ceux qui peuvent prétendre tirer quelque avantage matériel de ma mort en subiront aussi du même coup une perte matérielle. La mort est souvent pour nous d'autant plus lourde à porter qu'elle pèse plus aux autres, et que nous éprouvons aussi le dommage qu'elle leur cause, presque autant que le nôtre, et même parfois plus, et uniquement le leur. Ni la para ni l'emphase ne comptent dans les agréments que je recherche pour mon logement quand je voyage. Je les déteste plutôt au contraire. Mais une propriété simple, comme on en rencontre souvent dans les lieux où il y a moins de prétention, et que la nature honore de sa grâce. Un repas sans luxe, mais propre, avec plus d'esprit que de luxe. Nonius. Et puis, après tout, ce sont ceux que leurs affaires entraînent en plein hiver dans les grisons qui courent le risque de se voir surpris en chemin dans leurs dernières extrémités. Moi qui voyage le plus souvent pour mon plaisir, je ne me guide pas si mal. S'il fait l'air à droite, le bras à gauche, si je ne suis pas en état de monter à cheval, je m'arrête. Et en faisant ainsi, je ne vois en vérité rien qui ne soit aussi plaisant que mon gîte. Il est vrai que je trouve toujours la superfluité superflue, et des inconvénients même dans le raffinement et dans l'abondance. Ai-je laissé quelque chose à voir derrière moi? Je m'y retourne. C'est toujours mon chemin. Je ne me trace aucune ligne précise, ni droite, ni courbe. Je ne trouve pas là où je vais ce qu'on m'avait dit. Bon, comme il arrive souvent que les jugements des autres ne correspondent pas aux miens, et que le plus souvent je les ai trouvés faux, je ne me plains pas ma peine. J'ai du moins appris que ce qu'on disait n'y est pas. Ma constitution physique et mon goût se plient facilement à tout, autant que chez n'importe qui. La diversité des façons de vivre d'un peuple à un autre ne me touche que par le plaisir de la variété. Chaque usage a sa raison d'être. Que ce soit dans des assiettes d'étain, de bois ou de terre cuite, du bouilli ou du rôti, du beurre ou de l'huile, de noix ou de l'olive, chaud ou froid, tout me plaît. Au point que, en vieillissant, je blâme cette généreuse faculté, car il faudrait que la délicatesse et le choix viennent tempérer mon appétit et parfois soulager mon estomac. Quand je suis allé ailleurs qu'en France, et que, pour me faire plaisir, on m'a demandé si je vous êtes servi à la française, je m'en suis moqué et je me suis toujours précipité vers les tables les plus remplies d'étrangers. J'ai honte de voir comment les gens de chez nous sont dominés par cette sotte manie de regimber devant les usages différents des leurs. Où qu'ils aillent, ils s'en tiennent à leurs habitudes et détestent celles des étrangers. Retrouvent-ils un compatriote en Hongrie? Là, ils fêtent l'événement et les voilà qui s'allient et se liguent pour condamner toutes les mœurs barbares qu'ils voient. Mais pourquoi ne seraient-elles pas barbares puisqu'elles ne sont pas françaises? Et encore, ce sont les plus malins qui les ont reconnues pour en médire. La plupart ne vont au loin que pour en revenir. Ils voyagent cachés, enfermés, avec une prudence taciturne et peu communicative, en se défendant contre la contagion d'une atmosphère inconnue. Ce que je dis de ces gens-là me rappelle quelque chose de semblable que j'ai parfois observé chez certains de nos jeunes courtisans. Ils ne s'intéressent qu'à leurs semblables et nous regardent comme des gens de l'autre monde avec dédain ou pitié. Ôtez-leur les histoires concernant les mystères de la cour, les voilà perdus. Ils sont aussi singuliers et maladroits pour nous que nous le sommes pour eux. On dit bien vrai quand on dit qu'un honnête homme est un homme ouvert. Mais à l'inverse des autres, je voyage parce que je suis las de nos façons de vivre. Et non pour chercher des Gascons en Sicile. J'en ai suffisamment comme ça chez moi. Non, je cherche plutôt des Grecs et des Persans. Je les aborde, je les examine. C'est à cela que je me prête et m'emploie. Et qui plus est, il me semble que je n'ai guère rencontré de manière qui ne vaille les nôtres. Mais je m'avance un peu, car pour l'instant, c'est à peine si dans mes voyages, j'ai perdu mes girouettes de vue. Au demeurant, la plupart des compagnies que vous rencontrez par hasard en chemin offrent plus d'inconvénients que d'avantages. Je ne m'y attache pas, et moins encore maintenant que la vieillesse me met un peu à part et me tient à l'écart des manières courantes d'agir. Ou vous souffrez à cause des autres, ou les autres souffrent à cause de vous. L'un et l'autre de ces inconvénients sont pénibles. Mais le deuxième me semble encore plus rude. C'est quelque chose de très rare, mais d'une inestimable soulagement que de rencontrer un honnête homme, avec une solide intelligence et d'un caractère semblable au vôtre, qui veuille bien vous suivre. C'est ce qui m'a énormément manqué pendant mes voyages. Mais un compagnon de ce genre, il faut l'avoir choisi et adopté dès le départ. Aucun plaisir n'a de saveur pour moi si je ne puis en parler. Une seule pensée un peu gaillarde me vient-elle à l'esprit, que je suis désolé de l'avoir seule, et n'ayant personne à qui en faire profiter. Sénèque disait, si on me donnait la sagesse en m'enjoignant de la garder pour moi et de ne la communiquer à personne, je refuserais. Et cet autre avait encore monté d'un cran en disant, si la vie d'un sage devait être telle que disposant de tous les biens matériels, il puisse avoir connaissance de tout ce qui vaut la peine d'être connu, mais dans la solitude complète, sans voir personne, il quitterait la vie. Cicéro. Je suis d'accord avec Archytas pour dire que même au ciel, il serait peu plaisant de se promener au milieu de ces grands et divins corps célestes sans avoir avec soi un compagnon. Mais il vaut pourtant mieux encore être seul qu'être en compagnie de gens ennuyeux et stupides. Aristippe aimait à vivre en étranger partout. Mais pour moi, si le destin me laissait choisir ma vie à ma guise, Virgile, je choisirais plutôt de la passer le cul sur la selle, curieux de visiter les régions de la terre où font rage les feux du soleil et celles des brouillards et de la pluie, Horace. Mais n'avez-vous donc pas le passe-temps plus facile? Mais de quoi manquez-vous donc chez vous? Votre maison n'est-elle pas belle et saine suffisamment pourvue de tout le nécessaire et suffisamment spacieuse? Sa Majesté le roi ne s'y est-elle pas plus d'une fois arrêtée avec sa suite? Votre famille n'en est-elle pas plus d'autres au-dessous d'elle qu'elle n'en a au-dessus? Y a-t-il quelque pensée liée à cet endroit qui soit anormale et insupportable, qui vous ulcère? Où croyez-vous qu'il soit possible de n'être ni géré ni ennuyé? Ne voyez-vous pas que c'est vous qui vous causez du tort à vous-même? Vous vous suivrez partout et vous vous plaindrez partout, car il n'y a de satisfaction ici-bas que pour les âmes bestiales ou divines. Qui ne trouve son contentement quand il en a l'occasion? Où la trouverait-il? Des milliers de gens ne verraient-ils pas leurs souhaits comblés par une situation comme la vôtre? Faites donc un effort sur vous-même. En ce domaine, tout vous est possible. Quant au destin, vous n'avez que le droit de le supporter. Il n'est de vraie tranquillité que celle de la raison, Sénèque. Je vois que ce conseil est raisonnable, et je le vois très bien. Mais on aurait mieux fait et plus pertinemment de me dire en un mot, soyez sage. Car ce que dit la maxime latine vient après la sagesse. C'est son ouvrage, son résultat. Tout comme le médecin qui, au lieu de crier aux oreilles d'un pauvre malade languissant qu'il doit se réjouir, ferait mieux de lui donner un conseil moins stupide et lui dire, soyez en bonne santé. En ce qui me concerne, je ne suis qu'un homme du commun. Voici donc un précepte salutaire, sûr et facile à comprendre. Contentez-vous de ce que vous avez, c'est-à-dire de la raison. Mais sa mise en pratique pourtant n'appartient pas plus aux sages qu'à moi. Et cette maxime populaire n'a-t-elle pas une partie portée considérable? N'englobe-t-elle pas tout? Toute chose toujours change et se différencie. Je sais bien que si l'on prend les choses à la lettre, ce plaisir de voyager témoigne d'une certaine inquiétude et d'irrésolution. Mais ce sont justement nos qualités premières et prédominantes. Oui, je le confesse. Je ne vois rien, même en songe et dans ce que je souhaite, où je puisse me tenir pour de bon. Seule la variété me convient et la possession de la diversité, pour peu que quelque chose me contente. Ce qui me plaît justement en voyageant, c'est que je puis m'arrêter sans inconvénient et me détourner facilement. J'aime la vie intérieure parce que c'est mon choix. Et non parce que je m'oppose à la vie en société, qui parfois me convient bien aussi. Je sers mon prince avec d'autant plus de joie que cela résulte d'un choix libre et raisonné de ma part, non d'une obligation particulière et que je ne suis pas poussé ni contraint, parce que je serais malvenu et indésirable dans toute autre partie. Il en est de même pour tout le reste. Je hais les choses auxquelles je suis contraint par la nécessité, et tout avantage me prendrait à la gorge si je devais en déprendre entièrement. Un seul lien ne peut suffire à me retenir. Mais il y a de la vanité, dites-vous, dans ce passe-temps. Mais où n'y en a-t-il pas? Les beaux préceptes sont vanité, vanité toute sagesse. Le Seigneur connaît les pensées des sages et sait qu'elles sont vaines. Bible, psaume 93:11. Ces délicates subtilités ne sont bonnes que dans les sermons. Ce sont des raisonnements qui veulent nous expédier tout harnachés dans l'autre monde. La vie est un mouvement matériel et corporel, une action imparfaite par elle-même et déréglée. Et je m'emploie à la servir comme elle le demande. Il faut agir de façon à ne rien faire contre les lois de la nature, mais les lois respectées, il nous faut obéir à notre propre nature, Cicéron. À quoi bon ces sommets de la philosophie sur lesquels aucun être humain ne peut s'installer, et ces règles qui vont au-delà de notre usage et de notre force? J'observe qu'on nous propose souvent des exemples de vie que ni celui qui le propose, ni ceux qui les entendent, ne pourront jamais suivre, n'en ont d'ailleurs même pas envie. Du même papier dont il s'est servi pour écrire un arrêt de condamnation pour adultère, le juge déchire un morceau pour écrire un mot galant à la femme de son collègue. Celle avec qui vous venez d'avoir des rapports illicites prendra violemment à partie sa compagne, et même en votre présence, pour une semblable faute, et plus que ne le ferait pour si à elle-même. Cet autre condamne les gens à la mort pour des crimes qui ne sont même pas des fautes à ses yeux. J'ai vu dans ma jeunesse un homme distingué présenter d'une main au peuple des vers excellents pour leur beauté et leur ton libertin, et de l'autre en même temps, la plus pointilleuse des critiques théologiques dont le monde ait pu se régaler depuis longtemps. Ainsi vont les hommes. Ils laissent les lois et les préceptes suivre leur chemin, et ils en prennent un autre. Non pas seulement parce que leurs mœurs sont relâchées, mais souvent par opinion et jugement contraire. Écoutez un traité de philosophie. L'invention, l'éloquence, la pertinence frappent aussitôt votre esprit et vous donnent à penser. Il n'y a là rien qui vienne flatter ou même piquer votre conscience. Ce n'est pas à elle qu'on s'adresse, n'est-il pas vrai? C'est ce que disait Ariston. Ni un bain ni une course n'apportent rien s'il ne nettoie et ne décrasse. On peut s'en tenir à l'écorce des choses, mais c'est seulement quand on l'a en extrait la moelle qu'on peut les admirer, comme il faut avoir bu le vin d'une coupe pour en admirer la façon et la gravure. Dans tous les ateliers de la philosophie ancienne, on trouvera qu'il fut même ouvrier à publier des règles de tempérance en même temps que des écrits d'amour et de débauche. Et Xénophon, dans le Giron de Clinias, écrivit contre la sensualité prônée par Aristippe. Ce n'est pas qu'un mouvement miraculeux les agite, périodiquement, mais on voit que Solon, par exemple, se présente tantôt lui-même, tantôt comme un législateur. Tantôt il parle pour la foule, tantôt pour lui-même. Et pour lui-même, il adopte des règles libres et naturelles, se fondant sur sa bonne et robuste santé. Antisthène permet aux sages de faire l'amour et de faire à sa façon ce qu'il trouve bon sans s'occuper des lois, parce que son avis est meilleur qu'elle, et qu'il a une meilleure connaissance de ce qu'est la vertu. Son disciple Diogène disait qu'il fallait opposer aux perturbations, la raison, au hasard, la confiance, et aux lois, la nature. Pour les estomacs délicats, il faut des régimes stricts et étudiés. Les bons estomacs se servent simplement des prescriptions de leur appétit naturel. C'est ce qu'en font nos médecins qui mangent du melon et boivent du vin frais, pendant qu'ils mettent leurs patients au sirop et à la soupe au pain. Je ne sais quel livre ils lisent, quel est leur savoir et leur philosophie, disait la courtisane Laïs. Mais ces gens-là frappent aussi souvent ma porte que les autres. Comme notre désir nous porte toujours au-delà de ce qui nous est accessible et permis, on a souvent rétréci les principes et les lois qui régissent notre existence au-delà de ce que voudrait la raison universelle. Il serait souhaitable qu'il y ait une meilleure proportion entre le commandement et l'obéissance. L'objectif que l'on ne parvient pas à atteindre semble injustifié. Il n'est pas un homme de bien qui, s'il mettait à l'épreuve des lois toutes ses actions et pensées, n'eût mérité d'être pendu 10 fois au cours de sa vie. Et pourtant, il serait bien dommage et injuste de le punir, de le faire mourir. Celui qui se contenterait de respecter les lois ne serait pas vertueux pour autant, et la philosophie pourrait bien avoir des raisons de le faire fouetter, tant le rapport entre loi et vertu est trouble et incertain. Nous ne nous préoccupons guère d'être des gens de bien selon Dieu. Nous ne saurions l'être selon nous. La sagesse humaine n'est jamais parvenue à atteindre les buts qu'elle s'était elle-même fixés. Et si elle était parvenue, elle s'en fixerait d'autres plus lointains, auxquels elle aspirerait et tendrait toujours, tant notre état est ennemi de la stabilité. L'homme s'ordonne à lui-même d'être toujours en faute. Il n'est pas très adroit de se donner des obligations à la mesure de quelqu'un d'autre que soi. À qui donc l'homme croit-il prescrire ce qu'il n'attend pas que personne puisse faire? Trouve-t-il injuste de ne pas faire ce qui lui est impossible de faire? Les lois qui nous condamnent à ne pas pouvoir nous condamnent du même coup, parce que cela nous est impossible. Que ceux qui décrivent les choses disposent de cette liberté de présenter en 2 endroits et en 2 formules les actions d'un côté et les paroles de l'autre, c'est au fond un pis-aller que l'on peut accepter. Mais ce ne peut être le cas de ceux qui, comme moi, se décrivent eux-mêmes. Il faut que ma plume aille à la même allure que mes pieds. La vie en société doit être en rapport avec la vie des autres. La vertu de Caton était forte au-delà de ce qui était habituel à son époque pour un homme qui dirigeait les autres et voué au service public. Et on pourrait dire que sa façon de diriger, si elle n'était pas injuste, était du moins vraiment hors de saison. Ma façon de vivre, qui ne diffère que d'un pouce à peine des façons courantes, me rend pourtant déjà farouche et peu sociable pour mes contemporains. Je ne sais pas si je suis dégoûté et sans raison du monde dans lequel je me trouve, mais je sais bien que je n'aurai aucune raison de me plaindre qu'il soit dégoûté de moi, puisque je le suis de lui. La vertu qui convient pour les affaires du monde est une vertu pleine de replis, d'encoignures et de coudes, pour s'adapter et s'appliquer à la faiblesse humaine. C'est un mélange artificiel. Elle n'est ni droite, ni nette, ni constante, ni complètement innocente. Les annales historiques reprochent encore aujourd'hui à l'un de nos rois de s'être trop facilement laissé convaincre par les conseils de son confesseur. Les affaires de l'État ont des règles plus strictes. Il vaut mieux qu'il quitte la cour, celui qui veut être juste. Lucain. J'ai essayé autrefois d'utiliser pour les affaires publiques les idées, les façons de se comporter rudes, nouvelles, peu polissées ou peu souillées, qui sont innées chez moi, ou dues à mon éducation, et qui me vont très bien, au moins pour mon usage personnel. Mais ce sont des attitudes enfantines et naïves, et je les ai trouvées inadaptées et dangereuses dans ce cas. Celui qui s'aventure dans la foule doit savoir se détourner, serrer les coudes, reculer ou avancer, voire quitter le chemin qu'il s'était tracé en fonction de ce qu'il rencontre. Il ne peut vivre à son idée, il lui faut suivre celle des autres. Non selon ce qu'il se propose, mais ce qu'on lui propose, selon le temps, selon les gens et selon les affaires. Platon dit qu'échapper les manettes aux affaires du monde relève du miracle. Il dit aussi que quand il met son philosophe à la tête d'un État, il ne songe pas à un État corrompu comme celui de la cité d'Athènes. Que dire alors du nôtre? Mais la sagesse elle-même y perdrait son latin. Une bonne herbe transplantée dans une terre très différente s'adapte à celle-ci, plutôt qu'elle ne l'adapte à elle-même. Je sens bien que si je devais me préparer vraiment à de telles occupations, il me faudrait changer et présenter autrement pas mal de choses en moi. Quand bien même je le pourrais, et pourquoi pas, avec du temps et du soin, je ne le voudrais pourtant pas. Si peu que je me sois essayé à ce genre d'emploi, j'en ai été dégoûté. Je sens parfois s'élever dans mon âme comme un fumet d'ambition, mais je me raidis et m'obstine pour y résister. Mais on ne m'y appelle guère et je n'y convie aussi peu. La liberté et la disponibilité qui me caractérisent sont diamétralement opposées à ce métier-là. Nous ne savons pas voir les capacités des gens. Elles ont des divisions, des limites, sont malaisées et délicates à discerner. Conclure des capacités de quelqu'un dans sa vie privée une aptitude à des fonctions publiques, c'est mal raisonner. Ce n'est pas parce que quelqu'un se conduit bien qu'il conduira bien les autres, mais parce qu'il fait des essais qu'il est capable de mener à bien des actions. Tel sait conduire un siège qui ne saurait pas conduire une bataille. Il parle fort bien en privé, mais n'est pas capable de tenir un discours à un peuple ou à un prince. Il se pourrait même qu'être capable de l'un soit une preuve d'incapacité pour l'autre, et non de capacité pour les deux. Je trouve que les grands esprits ne sont guère moins aptes aux petites choses que les petits esprits aux grandes choses. Comment croire que Socrate ait pu faire rire les Athéniens à ses dépens en montrant qu'il n'était pas capable de compter les suffrages de sa tribu et d'en faire le rapport au conseil? Certes, la vénération que j'éprouve pour les perfections de ce personnage mérite bien que son sort fournisse un exemple éclatant de mes propres défauts. Nos capacités sont divisées en petits éléments. Les miennes n'ont pas d'étendue et ces éléments sont peu nombreux. Saturninus dit à ceux qui lui avaient déclaré tout commandement: Compagnon, vous avez perdu un bon capitaine pour en faire un mauvais général. Ceux qui se vantent dans une époque troublée comme celle-ci de mettre au service des autres leurs vertus naïves et sincères, ou bien ne se connaissent pas vraiment, ou bien se vantent à tort. Car quoi qu'ils en disent, ils font mille choses dont leur conscience pourrait les accuser. D'ailleurs, les idées se corrompent en même temps que les mœurs. Voyez comme ces gens-là se décrivent eux-mêmes. Voyez comment beaucoup d'entre eux se glorifient de leur conduite et font de leurs règles. Au lieu de montrer de la vertu, mais ils ne montrent que la pure injustice et le vice. Et cette vertu ainsi travestie, ils la proposent, quoique fausse, à l'éducation des princes. Je croirais volontiers Sénèque pour l'expérience qu'il en fit dans de semblables circonstances, s'il voulait bien m'en parler à cœur ouvert. La marque de bonté la plus honorable dans ce cas, c'est de reconnaître spontanément sa faute et celle d'autrui, de s'opposer de toutes ses forces au glissement vers le mal, ne suivre cette pente que malgré soi, espérer et désirer mieux que cela. Dans ces démembrements, ces divisions où la France est plongée, je vois chacun se donner du mal pour défendre sa cause, mais même les meilleurs ne le font pas sans dissimulation et mensonge. Qui écrirait à la va-vite sur ce sujet serait bien téméraire et même vicieux. Le plus juste parti est encore le membre d'un corps vermoulu et véreux. Dans un tel corps, on appelle sain le membre le moins malade, et c'est à bon droit, puisque nos qualités ne se définissent que par comparaison. L'honnêteté en société se mesure en fonction des lieux et des saisons. J'aimerais bien voir Xénophon nous faire d'Agésilas un éloge comme celui-ci. Agésilas avait été prié par un prince voisin avec lequel il avait autrefois été en guerre de le laisser passer par ses terres. Il accepta, le laissa passer à travers le Péloponnèse, et non seulement ne l'emprisonna pas, ne l'empoisonna pas, alors qu'il le tenait à sa merci, mais il le reçut courtoisement et sans l'offenser, comme il l'avait promis. Selon les mœurs de ce temps-là, il n'y aurait rien à dire d'extraordinaire d'un tel comportement. Mais ailleurs et à une autre époque, on soulignerait la loyauté et la grandeur d'âme que revêt celle une telle attitude. Nos petits sages de collégiens, s'en seraient moqués, tant la vertu spartiate est éloignée de la française. Nous ne manquons pas d'hommes vertueux, mais ils le sont à notre idée. Que celui qui a une conduite dont les principes sont au-dessus de ceux de son époque les adapte et les adoucisse, ou encore, ce que je lui conseille plutôt, qui se retire à l'écart et ne s'occupe pas des autres. Qui gagnerait-il en effet? Un homme éminent et vertueux, c'est pour moi comme un monstre, un enfant à deux têtes, des poissons mis à jour par un seugle charru, une mule qui ferait des petits, Juvénal. On peut regretter des temps meilleurs, mais on ne peut échapper au temps présent. On peut désirer avoir d'autres chefs, mais il faut néanmoins obéir à ceux que l'on a. Et il y a peut-être plus de mérite à obéir aux mauvais qu'aux bons. Tant que brillera quelque peu l'image des lois anciennes et acceptées de cette monarchie, je m'y tiendrai. Si par malheur elles viennent à se contredire et à se gêner entre elles, à produire deux partis entre lesquels le choix sera difficile et douteux, mon attitude sera volontiers d'échapper à cette tourmente, de m'y dérober. Peut-être que la nature pourra m'y aider, ou le hasard de la guerre. Entre César et Pompée, j'aurais franchement choisi. Mais pour les trois usurpateurs qui ont suivi, il aurait fallu se cacher ou suivre le vent. Ce que je considère comme anormal quand la raison ne joue plus son rôle. Ce qui précède est un peu du remplissage et en dehors de mon sujet. Oh, je m'égare, mais plutôt par une liberté voulue que par mégarde. Mes idées se suivent, mais parfois de loin elles se répondent, mais de façon détournée. J'ai jeté les yeux sur un dialogue de Platon divisé en deux parties fort contrastées. La première consacrée à l'amour, tout le reste à la rhétorique. Les anciens ne craignaient pas ces variations et se laissaient porter ainsi au vent, ou faisaient semblant de le faire, avec une élégance surprenante. Les noms de mes chapitres n'encouvrent pas toujours le sujet. Souvent, ils n'y ont qu'une allusion par quelque côté, comme ces titres L'Andrienne, l'Eunuque, ou ceux de Sylla, Cicéro, Torquato. J'aime que l'on écrive de façon poétique et en sautillant, en gambadant. C'est, comme le dit Platon, un art léger, volage, inspiré. Il est des ouvrages de Plutarque où celui-ci oublie son sujet, où l'on ne trouve son développement que par hasard, noyé qu'il est parmi d'autres choses. Voyez par exemple comment il fait dans Le démon de Socrate. Mon Dieu! Que ces escapades hardies, ces variations sont belles! Et plus encore lorsqu'elles se livrent avec nonchalance, comme fortuite. C'est le lecteur peu attentif qui risque de perdre mon sujet, pas moi. On trouvera toujours dans quelque recoin un mot qui doit suffire, même s'il est peu visible. Je fais les variations à tout bout de champ, sans me restreindre. Mon style et mon esprit vagabondent de concert. Il faut mettre un grain de folie pour éviter trop de sottises. Voilà ce que disent nos maîtres. Et surtout par les exemples qu'ils en donnent. Bien des poètes traînent et languissent de façon prosaïque, mais la meilleure prose de l'Antiquité, et j'en sème dans mes essais aussi bien que des vers, brille de la vigueur et de la hardiesse poétique, et relève bien de son inspiration. De toute évidence, c'est à elle que revient le premier rôle dans l'art de la parole. Le poète, dit Platon, assis sur le trépied des muses, profère dans le délire tout ce qui lui passe par la bouche, comme la gargouille d'une fontaine, sans le maîtriser ni le contrôler, et lui échappe des choses de diverses couleurs, de substances variées et torrentueuses. lui-même est tout à fait poétique et la vieille théologie est poétique aussi, disent les savants. Ce fut la première philosophie. C'est le langage originel des dieux. Je veux que les distinctions soient le fait de la matière elle-même. Elle doit montrer suffisamment où elle change, où elle se fait conclusion, où elle commence, où elle reprend son cours, sans qu'on en ait à la farcir de mots de liaison et de rafistolage introduits seulement pour secourir les oreilles faibles ou nonchalantes. Je n'ai pas à me commenter moi-même. Qui n'aimerait pas mieux qu'on ne le lise pas plutôt que d'être distraitement lu ou de biais? Si utile qu'elle soit, aucune chose ne peut vraiment servir si c'est seulement en passant, dit Sénèque. S'y prendre des livres suffisants pour les connaître, et s'y les voir, étaient les lire, les parcourir, les approfondir, oh, j'aurais tort de me dire aussi ignorant que je le fais. Puisque je ne puis capter l'attention du lecteur par l'importance de mon ouvrage, ce n'est pas si mal si j'y parviens par mes embrouilles à minuit. Voir, mais il regrettera ensuite d'y avoir perdu son temps. Bon, admettons, mais il y aura toujours pris du bon temps. Et puis, il y a des caractères comme cela, qui ont un certain dédain envers l'intelligence, et qui ne m'en estimeront que mieux, parce qu'ils me sauront ce que j'ai dit. Ils concluront à la profondeur de mon intelligence du fait de mon obscurité. Et pourtant, pour dire la vérité, c'est ce que je hais et que j'éviterais, si je savais le faire. Aristote, quelque part, se vante de cette affectation. Méprisable affectation. Comme la fréquente coupure des chapitres que je pratiquais au début m'a semblé briser l'attention avant qu'elle ne s'établisse et venir la dissoudre parce qu'on n'avait pas envie de s'installer pour si peu et si attarder, je me suis mis à les faire plus longs. Il réclame maintenant une certaine volonté et qu'on y consacre du temps. À ce genre de choses, si on ne veut donner qu'une heure, on ne donne rien du tout. Et l'on ne fait rien pour celui qui fait toujours autre chose en même temps. Ajoutons à cela que peut-être j'ai quelques dispositions personnelles à ne dire les choses qu'à demi, à les dire confusément et avec des contradictions. J'en veux donc à cette raison trouble faite et à ces projets extravagants qui empoisonnent la vie, ces idées si intelligentes, même si elles sont justes. Je trouve cela trop cher payé et trop gênant. À l'inverse, je m'emploie à faire valoir les futilités, voire les âneries, si elles me procurent du plaisir, et je me laisse aller à suivre mes inclinations naturelles sans les contrôler d'aussi près. J'ai vu ailleurs qu'à Rome, des maisons en ruine, des statues du ciel et de la terre. Mais c'est toujours d'hommes qu'il s'agit. C'est vrai, mais je ne peux pourtant revoir, si souvent que ce soit, la sépulture de cette ville si grande, si puissante, sans l'admirer et sans la révérer encore. Entretenir le souvenir des morts fait partie de nos obligations. Or, j'ai été élevé dès mon enfance avec les gens de cette ville. J'ai connu les affaires de Rome longtemps avant celles de ma maison. Je connaissais le Capitole et ce qui l'entourait, avant d'avoir connu le Louvre et le Tibre avant la Seine. J'ai eu la tête pleine des vies de Lucullus, Metellus et Scipion et de leur destin, plus qu'elle n'est remplie dans ce camp d'aucun des grands hommes de chez nous. Ils sont morts. Mon père aussi, et autant qu'eux. Mais ils s'étaient éloignés de moi en 18 ans, autant que cela, ils en ont mis 1600. Et pourtant, je continue de révérer et entretenir sa mémoire, le souvenir de son amour et de sa société, dans une communion parfaite et demeurée très vive. Il est vrai que mon humeur naturelle me rend plus attentif à ceux qui ne sont plus. Ils ne peuvent plus rien pour eux-mêmes. Et ne semble de ce fait réclamer d'autant plus de l'aide de ma part. C'est là que réside justement la gratitude, dans tout son éclat. Un bienfait est moins méritoire quand il est payé de retour. Arcésilas, rendant visite à Ctésibios malade et le trouvant en bien piteux état, glissa discrètement sous son oreiller de l'argent dont il lui faisait cadeau. En s'en cachant, il le tenait en outre quitte de lui en savoir gré. Ceux qui ont mérité de ma part amitié et reconnaissance ne les ont jamais perdus pour avoir disparu. Je les ai encore mieux payés de retour étant absent, et sans qu'ils le sachent. Je parle encore plus affectueusement de mes amis quand ils n'ont plus aucun moyen de le savoir. J'ai 100 fois bataillé pour défendre Pompée et la cause de Brutus. Cette sympathie entre nous dure encore. Même les choses présentes, nous ne les considérons que par l'imagination. Me trouvant peu utile dans ce siècle, je le rejette sur cet autre et j'en suis tellement entiché que l'état de cette vieille Rome, libre, juste et florissante, car je n'aime ni ses débuts ni sa vieillesse, m'intéresse et même me passionne. C'est pourquoi je ne saurais revoir aussi souvent que ce soit le tracé de ses rues, de ses maisons et ses ruines plongeant jusqu'aux antipodes, sans aimer y flâner. Est-ce normal ou est-ce un tour que nous joue l'imagination? Si la vue des lieux que nous avons à voir était fréquentée et habitée par des gens dont nous honorons la mémoire, nous émeut plus que le fait d'entendre le récit de leurs faits et gestes ou de leur lire leurs écrits, tant est grande la force d'évocation des lieux. Cette ville la possède au suprême degré. Où que l'on aille, on met le pied sur de l'histoire. Cicéron. J'aime contempler le visage des anciens Romains, leurs attitudes, leurs vêtements. Je me répète ces grands noms entre les dents et je les clame à haute voix. Je vénère ces grands hommes et je m'incline devant de tels noms. Sénèque. Dans les choses dont certaines parties sont grandes et admirables, j'admire même celles qui sont communes. Je verrais volontiers ces hommes-là converser, se promener, souper. Il serait ingrat de mépriser les restes et les images de tant d'hommes si honorables et valeureux, que j'en ai en quelque sorte vu vivre et mourir, et qui nous donnent de si belles leçons par leur exemple, si nous étions capables de les suivre. Même cette Rome que nous voyons maintenant mérite qu'on l'aime. Elle est depuis si longtemps alliée par tant de titres à notre couronne. C'est la seule ville commune à tous les peuples, la ville universelle. Le pontife qui la gouverne est reconnu comme tel ailleurs. C'est la métropole de toutes les nations chrétiennes. Espagnol ou français, chacun y est chez soi. Pour être prince de cet État, il suffit d'être prince d'un pays chrétien, où qu'il soit. Il n'est en aucun lieu ici-bas que le ciel ait autant marqué de ses faveurs, de façon aussi continue. Même ces ruines en sont imposantes et glorieuses. Même au tombeau, elles conservent des marques et des symboles de l'Empire. On pourrait se reprocher et s'irriter contre soi-même de se sentir chatouillé par un plaisir si vain. Mais pourquoi nos sentiments ne seraient-ils si vains après tout s'ils sont agréables? Quel que soit le sujet de contentement d'une personne de bon sens, je ne vois pas de raison de la plaindre. Je suis très redevable au hasard de ce qui n'a rien fait de très grave contre moi jusqu'à maintenant, rien que je ne puisse supporter. Ne serait-ce pas sa façon de laisser en paix ce qui ne le contrarie pas? Plus vous vous refuserez à vous-même, plus les dieux vous combleront. Je suis dépourvu de tout, mais je suis de ceux pourtant qui ne désirent rien. À qui demande beaucoup, manque toujours trop. Horace. Et s'il continue comme cela, il me renverra d'ici-bas très content et satisfait. Mais gare à la casse. Il y en a tant qui font naufrage au port. Je me console facilement de ce qui se passera ici quand je n'y serai plus. Les choses présentes m'occupent bien assez. Je laisse le reste au destin. Je n'ai pas, quant à moi, ce lien très fort qui attache les hommes à l'avenir, dit-on, par le biais d'enfants qui portent leur nom et perpétuent leur réputation, Et peut-être faut-il en désirer d'autant moins qu'ils sont désirables. Je ne suis attaché au monde et à cette vie que par moi-même. Il me suffit d'être soumis au destin par ce qui me concerne directement, sans aller lui fournir d'autres moyens d'avoir prise sur moi. Et je n'ai jamais cru qu'être sans enfant soit un défaut qui puisse rendre la vie moins complète et moins heureuse. N'avoir pas de descendants, c'est une situation qui offre bien des avantages, elle aussi. Les enfants sont au nombre des choses qui n'ont guère de raison d'être désirées, et surtout maintenant, à une époque où il est si difficile de les rendre bons. Et ce sont les choses que l'on a eues, que l'on regrette ensuite, quand on les perd. Celui qui me laissa sa maison en charge pensait que j'allais la ruiner, connaissant mon humeur si peu casanière. Il se trompa. M'y voilà comme quand j'y suis entré, et même peut-être un peu mieux, sans avoir obtenu pourtant ni charge publique, ni bénéfice ecclésiastique. Au demeurant, si le destin ne m'a causé aucun dommage extraordinaire et irréparable, il ne m'a pas non plus comblé de ses grâces. Tous les dons qu'il a pu faire chez nous y étaient avant moi, il y a plus de 100 ans. Je n'ai personnellement aucun bien essentiel et solide que je doive à sa bienveillance. Il m'a fait quelques faveurs éphémères, d'honneur et de titre, mais sans substance. Il me les a en vérité non pas accordées, mais offertes. Dieu le sait, je suis quelqu'un de très matériel, qui ne me paie que de la réalité, et encore bien massive. Et si j'osais le confesser, je suis quelqu'un qui ne trouverait guère d'avarice moins excusable que l'ambition, la douleur moins évitable que la honte, la santé moins désirable que la science, ou la richesse que la noblesse. Parmi les petites faveurs du destin, il n'en est pas qui plaise autant à ce goût un peu bête qui est le mien, qu'une bulle authentique que le citoyenneté romaine, qui me fut octroyée dernièrement, quand je me trouvais dans cette ville, pompeusement ornée de sceaux et de lettres dorées, et octroyée avec une gracieuse libéralité. Et parce qu'elles sont rédigées de diverses façons, plus ou moins élogieuses, et qu'à en avoir vu une, j'aurais été bien content qu'on m'en indique au moins les formules, je veux la transcrire ici, pour le cas où quelqu'un serait atteint par une curiosité maladive, comme le fut la mienne. Sur le rapport fait au Sénat par l'Oratio Massini, Marzo Crezio, Alessandro Muti, conservateur de la ville de Rome, concernant le droit de cité romaine accordé au très illustre Michel de Montaigne, chevalier de l'ordre de Saint-Michel et gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi très chrétien, le Sénat et le peuple romain ont décrété ce qui suit. Considérant que par un antique usage, ce qui distinguait en vertu et en noblesse avait honoré si grandement servi notre République, ou pourrait le faire un jour, ont toujours été adoptés parmi nous avec ardeur et empressement. Nous, mus par l'exemple et l'autorité de nos ancêtres, estimons devoir conserver cette belle coutume. Pour ces raisons, vu que le très illustre Michel de Montaigne, chevalier de l'ordre de Saint-Michel et gentilhomme ordinaire de la Chambre du roi très chrétien, très attaché au nom romain et très digne par le nom, hein, et par l'éclat de sa famille et par ses qualités personnelles, d'être admis au droit de cité romaine par le suprême jugement et les suffrages du Sénat et du peuple romain, il a plu au Sénat et au peuple romain d'inscrire sur la liste des citoyens romains le très illustre Michel de Montaigne, orné de toutes sortes de mérites et très cher à cet illustre peuple, en sa personne ainsi que celle de ses descendants, et qu'il soit appelé à jouir de tous les honneurs et avantages réservés à ceux qui sont nés citoyens et patriciens de Rome, ou le sont devenus par éminent décret. En cela, le Sénat et le peuple romain pensent qu'ils accordent moins un droit de cité, qu'ils n'acquittent une dette et que c'est moins un service qu'ils rendent qu'un service qu'ils reçoivent de celui qui, en acceptant ce droit de cité, honore et illustre la cité elle-même. Les conservateurs ont fait transcrire ce senatus consulte par les secrétaires du Sénat et du peuple romain pour être conservé dans les archives du Capitole et en ont fait dresser cet acte muni du sceau ordinaire de la ville. L'an de la fondation de Rome, 2331, 1581 après la naissance de Jésus-Christ, le troisième jour des Ides de mars, Horatio Fosco, secrétaire du Sacré Sénat et du peuple romain, Vincente Martoli, secrétaire du Sacré Sénat et du peuple romain. N'étant citoyen d'honneur d'aucune ville, je suis bien aise de l'aide de la plus noble qui fut et qui sera jamais. Si les gens se regardaient attentivement comme je le fais, ils trouveraient comme moi qu'ils sont pleins de vanité et de sottise. Je ne puis m'en défaire sans me défaire de moi-même. Nous en sommes tous confiés les uns et les autres, mais ceux qui le sentent en pâtissent un peu moins. Peut-être. L'attitude et l'habitude commune qui consiste à regarder ailleurs qu'en nous-mêmes nous sont bien profitables, car nous sommes pour nous-mêmes un objet de grand mécontentement. Nous n'y voyons que misère et vanité. Et pour ne pas nous décourager, la nature a rejeté fort à propos l'objet de nos regards au dehors. Nous allons à volo, mais rebousser chemin est un mouvement pénible. Le flot de la mer se brouille et se freine quand il reflue ainsi. Regardez, dit-on, les mouvements du ciel. Regardez les gens, la querelle de celui-là, le pouls de cet autre, le testament de celui-ci. Regardez toujours en haut ou en bas ou à côté, ou devant ou derrière. Le commandement que nous faisait dans l'Antiquité le dieu de Delphes était paradoxal. Regardez en vous. Connaissez-vous vous-même? Tenez-vous-en à vous. Votre volonté, votre esprit qui se dépensent ailleurs, ramenez en vous. Vous vous épanchez, vous vous répandez. Tenez bon, cramponnez-vous. On vous trahit, on vous dissipe, on vous dérobe à vous-même. Ne voyez-vous pas que ce monde est replié sur lui-même? Que ses yeux ne sont ouverts que pour se contempler lui-même? Tout est vanité, au-dedans comme au-dehors, mais elle est moindre quand elle est moins étendue. « Sauve-toi, homme, disait le Dieu. Chaque chose s'examine elle-même en premier, selon ses besoins, mets des limites à ses travaux et à ses désirs. Il n'en est qu'une seule qui soit si vide et si nécessiteuse. C'est toi qui prétends embrasser l'univers. Tu es celui qui observe sans savoir. Le magistrat sans juridiction et en fin de compte, le bouffon de la farce. »